Europe 1.
11h03 sur Europe 1, bien fait pour vous, c'est maintenant.
Merci Émilie, prochain point sur l'actu à midi.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Alors ce matin Julia, par quoi on démarre?
Eh bien Mélanie, notre première question du jour est la suivante. Et c'est du pratique, vous allez voir aujourd'hui. Doit-on se méfier des promotions dans les supermarchés? D'autant plus à cette période, parce qu'on sort des fêtes, les commandes au Père Noël ont pas mal vidé les comptes en banque. Et donc c'est vrai que c'est le moment où on est peut-être encore un peu plus attiré par le fameux 3 pour le prix de 2 ou 6 achetés, 4 gratuits. Bref, on va analyser ensemble si ces offres alléchantes sont aussi avantageuses que cela. Ce sera un dossier en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs.
Et puis Julia, à 11h35, il y aura comme chaque jour notre dossier santé bien-être du jour dans lequel on vous propose aujourd'hui un focus sur le Dry January. Un mois sans alcool, une opération destinée à monsieur et madame tout le monde, un mois sans aucune boisson alcoolisée. Et le but de tout ça, c'est justement de s'évaluer, de se poser les bonnes questions pour peut-être changer ensuite son rapport à cette substance. On va faire le point sur les bienfaits concrets de cette campagne avec le professeur et addictologue Amine Benyamina.
Ensuite, Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour. C'est Marion Sauveur qui s'en chargera aujourd'hui. Sa chronique sera douce et sucrée car c'est la guimauve qu'elle mettra à l'honneur. Ensuite, ce sera Philippine Darblay de manier le micro et elle va nous être d'une aide précieuse ce midi car elle a déniché pour nous les dernières tendances qui permettent de se lever chaque matin du bon pied. Ça va en intéresser plus d'un à mon avis.
Oui, enfin Julia, on terminera ce tour de table des tendances jeudi avec Cécile Coumeau, celle qui met en avant à chaque fois ici les tendances qui concernent surtout les quinquas et plus. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler de ces start-up qui sont uniquement au service des seniors.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente de vous aider à naviguer plus sereinement dans votre vie quotidienne, dans tout ce qui la compose, notre famille, notre boulot, mais aussi notre portefeuille. Et c'est de ça dont on va parler pour commencer cette émission. On va l'ouvrir, le portefeuille et aussi la question, doit-on se méfier des promotions dans les supermarchés?
Exactement Julia, parce que toute l'année, elles fleurissent dans tous les rayons. On reçoit aussi des tas de bons, de coupons de réduction. Vous en avez dans votre boîte aux lettres, je suis sûre, comme tout le monde. Ou via Internet, eh bien, vous savez même que près d'un Français sur deux affirme les rechercher. Alors, toutes ces soi-disant promos sont-elles vraiment réglo? Comment rester vigilant? Comment éviter les inflations avant réduction? On va le voir dans quelques minutes avec nos deux invités. Mais avant ça, alors là, lui, c'est pas une arnaque. Il pose toujours aux gens dans la rue les questions au bon prix. Bonjour Clément Lannou.
Bonjour tout le monde. Effectivement, le sujet du jour, les promotions, qu'est-ce qu'on aime ce mot? Dans le cadre du travail, avoir une promotion, c'est positif.
Oui,
dans les supermarchés, les promotions, on s'en méfie parce qu'on est en France et on ne veut pas être pris pour des... Non, je dirais pas le gros mot. Non, je ne dirais pas le gros mot. On veut pas être pris pour Madame l'a trouvé.
Moi, personnellement, je pense qu'on me prend pour une quiche, oui là.
Donc oui, parfois, on est pris pour des quiches. Les promotions, est-ce qu'elles sont toutes bénéfiques? Les Français y croient moyen. Petit medley de réponse.
C'est rentable d'acheter en promotion, mais le problème, c'est qu'il y a des promotions toute l'année maintenant. Donc finalement, c'est plus spécialement intéressant comme ça l'a été pendant une période.
Oui, j'achète quand je suis en promotion. Après, j'imagine que, derrière, il y a tout un. Tout un business plan qui fait que c'est très rentable pour les supermarchés, donc moi j'en profite.
En fait, oui, c'est moins cher que quand c'est plein pot.
Bon, en gros, on n'en sait rien. J'ai différencié en plusieurs types de personnes. Voici ceux qui sont fans, ce que j'appellerais les reines de la promo.
Ah bah alors moi je suis la reine de la promotion. Alors quand il y a des promos sur le papier toilette, mais alors j'en achète en quantité pour toute l'année. En fait j'ai le stock pour l'année, c'est pas compliqué. Je fais pareil avec la lessive, la soupline, c'est vachement intéressant. Alors le seul truc c'est que mon mari il râle parce que on n'a pas de place pour tout stocker, c'est le seul souci.
Donc voilà, celle-là elle faisait même avant l'ère Covid parce que le papier
addict,
toilette on a
exactement,
vu ça.
Ça existe. Il y a ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est bien mais ils savent pas trop non plus.
Ça dépend des fois, on voit que c'est encore plus cher. Mais bon, s'il y a des promotions qui valent le coup, je prends tout le temps.
Eh oui, quand c'est gratuit, c'est forcément tout de suite plus intéressant. Quand c'est moins cher, c'est mieux justement. Ce fameux goût du gratuit, il y a ceux qui en revanche, parce qu'on est en France, on en a beaucoup, qui ne croient pas du tout à la promo, c'est de l'arnaque.
Moi perso, j'en profite jamais, parce que j'ai pas confiance. J'ai vu un reportage à la télé là, sur les promos par deux ou trois... Apparemment, c'est plus cher quand on les prend par trois. enfin, certains produits. Quand on les achète à l'unité...
Bah vu que j'y crois pas, j'achète pas trop en promotion. parce qu'en fait ça pousse à l'achat, ça crée le besoin. Et souvent, c'est pas des vraies promotions.
Ils vendent pas à perte, je pense pas. Donc, sur le volume, je pense qu'ils sont gagnants.
Il y en a pas mal quand même qui se laissent pas prendre pour des jambons. Hein,
justement, justement. Alors, j'ai fait appel à des experts. Non, je plaisante, je suis allé voir des enfants, tout simplement.
Moi, c'est bien parce que du coup, ça coûte moins cher.
C'est un peu de l'arnaque. Par exemple, t'achètes un poulet, ils mettent un prix genre, je sais pas moi, 30 euros. Ils le rayent. Et après, ils mettent un prix moins cher, mais c'est le prix de base.
Ah, mais là, même les enfants arrivent à décrypter ça, c'est
donc,
pas mal.
Finalement,
hein.
Peut-être que cette dame avait raison.
Moi, personnellement, je pense qu'on me prend pour une quiche, oui. Là.
Ah. Je ne sais pas, on va voir, y a-t-il des bonnes et des mauvaises promotions? On va en parler dans un instant.
Évidemment, mais peut-être qu'on nous prend pour des jambons, c'est ça la question qu'on va se poser ce matin. Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction très documentée. C'est important d'avoir la température, l'avis des Français avant de commencer notre entretien chaque jour. Maintenant, nous allons accueillir nos deux invités du jour, Lionel Mauguin.
Bonjour, Mauguin.
Oui. Ah, Mauguin. Et Sophie Raymond, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Lionel, vous êtes journaliste au magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier. Et Sophie, vous êtes économiste à l'Institut National de la Consommation. Alors déjà, on va déterminer ce que sont les promotions. Est-ce que l'on parle de la même chose que les soldes? Et c'est quoi la différence entre promotion et solde en quelques mots?
Lionel, Sophie.
Allez, c'est parti. Du coup, non, ce n'est pas la même chose. Les soldes sont encadrés par la loi, alors que les promotions, il n'y a pas vraiment d'encadrement juridique. Mm-hmm. Le seul encadrement juridique qu'on pourrait trouver autour des promotions, c'est plutôt les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et qui ne doivent pas induire en erreur le consommateur. Il y a également la loi Egalim qui encadre sur le volume et en valeur les promotions, donc maximum 25% en volume et 34% en valeur de réduction permise.
Alors que les soldes, on peut aller jusqu'à moins 70%.
Exactement, les soldes, on peut faire ce qu'on veut. Et aussi les soldes, on a le droit de vendre à perte, ce qui n'est pas permis pour les, pour les promotions.
Le Black Friday, on le casse dans les soldes ou les soldes, du coup?
C'est plutôt les soldes.
Ouais, c'est ça. Alors les Français, est-ce qu'ils sont friands de ces promotions? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mesuré, Lionel Mauguin?
Alors actuellement, c'est le prix, c'est le souci numéro un des Français. On va dans les magasins pour acheter en promotion. Quand on est dans un magasin, on achète en promotion plus de la moitié des gens, et encore plus aujourd'hui, je pense. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il y a 20% de chiffre d'affaires d'un hypermarché qui est fait par des produits en promotion.
Oui, quand même.
Quand un distributeur, un fournisseur met un produit en promotion, il peut en vendre 25% de plus s'il est en prospectus, 50% de plus s'il est en prospectus, plus une mise en avant dans le magasin. Parce que promotion, à la base... C'est pas ristourne, c'est pas remise, c'est mettre en avant, promouvoir, mettre en avant. Il n'y a pas une promesse de bonne affaire.
Nous, on a l'impression que ça veut dire économie, quoi, forcément, ouais. Mais ce n'est pas toujours ça, effectivement.
C'est une mise en avant.
Soyons lucides, effectivement. Ça date de quand l'apparition des promotions dans notre société moderne? Parce que j'imagine qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de 3 achetés et 2 pour le prix de 2, enfin, ça n'existait pas.
Oui, mais au XVIIIe siècle, il y avait du commerce et donc il y avait des gestes commerciaux et ça existait déjà, évidemment.
On recevait juste pas de spam pour nous le signaler, quoi.
Non,
c'est ça.
Mais vous discutiez, est-ce que vous pouvez me faire un prix? Enfin, ça a toujours existé et c'est le même principe aujourd'hui, sauf que bon, on essaie de réglementer, on essaie de vérifier si tout ça est loyal.
Alors, les promotions, ça se trouve également sur Internet. C'est d'ailleurs via le digital, non, qu'on est désormais le plus appâté. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, les catalogues promotionnels, ils sont aussi disponibles en ligne. Donc, on peut tout à fait acheter en promotion en ligne et après récupérer en drive ou se faire livrer tout simplement chez soi ces articles en promotion.
Et comment ça se traduit digitalement? Sous quelle forme, en fait?
Du coup, comme sur les prospectus, finalement, il y a toujours le prix de référence, entre guillemets, qui est affiché, barré, avec la remise promise par le distributeur. Et voilà, ça s'affiche comme sur le catalogue, sauf que directement... Ça se fait en ligne directement.
Moi, j'ai appris dans 60 millions de consommateurs, justement, notre partenaire aujourd'hui, que le tout premier coupon de réduction, pour le coup, remontait à 1887. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en gros, toutes les personnes qui sont sur cette planète, en tout cas dans nos pays industrialisés, ont toujours connu des promos, des réducs, des codes réducs. Enfin, on vit avec ça depuis longtemps et on adore ça, en fait, hein, clairement.
Surtout en ce moment, c'est pas un amour passionnel parce qu'on les budgets sont pas extensibles.
On en a besoin.
Réellement,
quoi.
Là, c'est très sérieux. Nous, on a voulu vérifier si les promotions passaient bien en caisse, s'il y avait de la loyauté, parce que c'est très très important pour énormément de foyers français actuellement de payer au prix le plus bas, et parce que les budgets sont pas extensibles, donc. On a demandé aussi la collaboration des lecteurs de 60 millions pour qu'ils nous aident à déjouer les pièges, à les remonter. Donc voilà,
c'est un travail d'équipe, c'est une enquête d'équipe. Très bien. Vous restez avec nous tous les deux. On va poursuivre cet éclairage sur les promos. Les réductions promises par la grande distribution, d'ailleurs, sont-elles réellement appliquées? Trouve-t-on réellement toujours les articles remisés? Eh bien, le magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier du jour, a mené l'enquête. Et dans un instant, sur Europe 1, on va mesurer ensemble à quel point on se fait parfois rouler dans les magasins.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Il est sympa et attirant. Méfiez-vous, c'est un truand. C'est le dragueur des supermarchés.
Déjà Jacques Dutronc, se laissez pas flouer, de retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. Et ce matin, on tente surtout de mieux consommer sans se ruer les yeux fermés sur toutes les ristournes placardées partout. On réfléchit donc à cette question: doit-on se méfier des promotions dans la grande distribution? J'ai fait plein de rimes en plus, Julia.
C'est trop,
j'avais même pas fait attention. Et pour y répondre précisément, on a deux invités en studio avec nous ce matin. Lionel Mauguin, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire sur ce dossier, et enfin Sophie Raymond, économiste à l'Institut National de la Consommation. Alors dans le magazine, vous titrez en une hein, des promos pas réglo. Pourquoi est-ce que ça veut dire qu'on se fait systématiquement toujours avoir, Lionel?
Alors, non, on ne peut pas parler comme ça. Le premier constat qu'on a fait, c'est que quand vous allez en magasin pour acheter en promo, ce qu'on a fait, nous on a acheté des produits avant la promo, pendant la promo et après la promo. Pendant la promo, les promos, elles passent. Mmh. On n'a trouvé aucun exemple dans lequel la promo ne passait pas en caisse. Donc ça, c'est important à
c'est
souligner
déjà pas
d'entrée.
Mal. Mmh.
Le problème, c'est de trouver le produit déjà. Parce que parfois, vous allez au magasin et vous faites chou blanc. Vous allez le premier jour de la promotion et il n'y a pas le produit. Donc ça, c'est non seulement c'est énervant, mais c'est surtout illégal. Mm-hmm. Parce qu'on vous attire, on vous dit de venir et il y a une rupture de stock, c'est pas admissible.
Mais surtout, donc, une rupture de stock le premier jour, c'est bizarre, quoi.
Alors c'est bizarre, on s'est fait la même réflexion, et donc on s'est renseigné, et en réalité, les distributeurs nous disent, effectivement, nous on commence des promotions, et on peut le comprendre, un ou deux jours avant, pour que les équipes puissent mettre en place ces rayons.
Donc ils sont dévalisés, vous croyez?
Donc évidemment, il y a un risque de rupture de stock, parce que les gens qui viennent la veille, je vais le prendre.
Bon, s'il y a une rupture sans faire exprès, mais qu'au passage les gens sont déjà dans le magasin, au pire ils achèteront autre chose, quoi. C'est ça en fait, un peu aussi
l'idée.
Ouais,
non, mais c'est pas correct.
C'est pas honnête,
en fait.
C'est
pas correct, et d'ailleurs c'est réprimé par le code de la consommation. Ce que vous pouvez faire, si ça vous arrive, c'est de demander au magasin de commander le produit au prix promo. Mmh. Ils ne peuvent pas vous refuser. Et s'ils le refusent, vous alertez la répression des fraudes qui viendront mettre
vous
un procès verbal.
Vous faites un CIDIC, vous ne partez pas tant que vous n'avez pas votre baril de lessive au prix indiqué.
Il y en a d'autres.
Hein. C'est ça. Alors, selon vous, et après enquête, est-ce que sur le long terme, il faut profiter de ces promos ou alors plutôt continuer à faire ses courses normalement sans courir après pour chaque achat? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peine perdue ou c'est quoi la morale de l'histoire?
Finalement, on peut toujours continuer à faire les promos parce que de toute manière, elles sont toujours constantes, elles sont toujours là. Il y a même parfois plusieurs opérations promotionnelles en même temps. Voilà, c'est la rentrée, c'est le chocolat pour Pâques, les choses comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, les consommateurs seront confrontés aux promotions dans les magasins. Et du coup, le seul conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut que les consommateurs redoublent de vigilance. Que voilà, ils peuvent pas y aller les yeux fermés en faisant complètement confiance. Il faut notamment regarder plutôt le prix au kilo ou au litre selon le produit qu'on achète plutôt que de se fier directement au prix.
Moi, je fais toujours ça. Vous regardez pas le prix au kilo, Julien?
Si, toujours.
Ouais, c'est moi aussi. Ouais. J'avais ce retard-là.
Très bon réflexe. Très bien.
Donc, comment vous avez mené votre enquête, Lionel, à 60 millions de consommateurs sur les promos? Alors, vous nous l'avez dit, vous avez enquêté avant, pendant, après. Ça, c'est trois temps différents. Mais en fait, vous avez choisi quel type de grande enseigne, quel type de produit? Expliquez-nous un peu la méthodologie, peut-être.
Je vais peut-être laisser.
Allez-y, Sophie.
Il n'y a pas de sensé. Du coup, pour le choix des enseignes, on en a pris les plus représentatives du marché. Ensuite, on a
citez-nous quelques enseignes.
Auchan, Leclerc, Lidl,
Carrefour.
Carrefour.
Très bien.
Intermarché, voilà. Super U. Voilà.
Ensuite, on s'est amusé à trouver les catalogues promotionnels en ligne ou en physique pour qu'ils sont généralement mis en ligne quelques jours avant le début de la promotion pour qu'on ait le temps de à la fois sélectionner les produits qu'on voulait et ensuite de faire le relevé avant la promotion. Mm-hmm. Et du coup, on choisissait surtout les produits à réduction immédiate, parce qu'il y a aussi les réductions sur, avec la carte de fidélité du magasin. Donc, on ne pouvait pas se permettre de toutes les avoir. Donc, du coup, on a pris à réduction immédiate ou réduction sur le deuxième produit identique. Et après, on a essayé un peu de diversifier le panier en mettant des produits aussi bien alimentaires, boissons, alcool, soft, et aussi des produits d'entretien, d'hygiène et de cosmétiques.
Et du coup, Sophie, c'est quoi le résultat des courses? C'est qui les bons et les mauvais élèves dans tout ce que vous venez de nous citer?
On ne peut pas vraiment dire qu'il y a de bons ou de mauvais élèves. Ils ont tous des pratiques.
Tous mauvais.
Voilà, merci Lionel.
Ils ont tous des pratiques qui peuvent être contestées. Et donc, du coup, ni de bons ni de mauvais.
De toute façon, on est là pour cibler personne particulièrement. On donne des exemples, évidemment.
On essaie d'alerter, effectivement. Ils ont l'air déjà bien alertés, les consommateurs et les auditeurs.
Vous avez entendu chez Clément Lanneau tout à l'heure.
Mais... Un truc qu'on a remarqué, c'est le prix de référence, c'est-à-dire le prix barré. Bien souvent, dans certaines enseignes, elle ne correspond à rien, puisque le produit n'existait pas en rayon, on ne l'a pas trouvé avant.
C'est un prix fictif, en fait, qui barre.
Voilà, j'imagine, sur un produit nouveau, c'est pareil. Sur un produit nouveau, il n'y avait pas de prix à la base.
Exactement.
Donc, on l'offre tout de suite à 30%, mais il n'avait pas de référence au départ.
C'est quoi à quoi correspond le prix initial? Donc ça, c'est une des choses qu'on a pu remarquer. C'est quand même aussi assez ennuyeux sur la réalité de ce prix barré, et donc de la promotion.
Et c'est peut-être le prix conseillé par le fabricant, quand même. Il y a une référence au départ, non? J'imagine que le fabricant donne une moyenne.
Comment se font les promotions? En fait, c'est des négociations qui ont lieu en début d'année. Actuellement, ils sont en train de négocier
jusqu'au
pour l'année 2022.
Ouais, c'est ça.
Le planning des promotions dans les catalogues, vous savez que c'est le fournisseur qui finance tout ça. Donc, c'est des d'âpres négociations entre distributeurs et fournisseurs. Et effectivement, c'est évidemment crucial pour les deux acteurs et aussi pour les consommateurs d'avoir des promotions. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, ça ne porte pas forcément sur les produits standards. C'est ça aussi qu'il faut noter.
Ah bon ? Il y a des produits qui sont
céréales,
plus.
Ouais, il fait 750 grammes ou 620 grammes en format standard. Là, on trouve des paquets de 1 kilo en promotion. Et ça, on peut les mayonnaises, elles font 230 grammes, le flacon de mayonnaise. Là, la promo, c'était 3 mayonnaises de 400 grammes pour le prix de 2. Donc, interrogez-vous, est-ce que vous avez besoin d'un kilo 2 de mayonnaise chez vous?
C'est toujours utile. Hein.
On pense faire des économies, mais finalement, on gâche et on jette et on perd finalement plus d'argent que prévu.
Il faut s'interroger, il ne faut pas s'emballer. Il y a souvent des promos sur des grosses quantités. Certes, elles passent en caisse.
Il faut pouvoir les stocker à la maison aussi.
Mais voilà, c'est...
D'ailleurs, moi, j'ai une question, parce que promotion, ça veut dire plein de choses. Je crois qu'il y en a trois que dans votre étude. Il y a la remise immédiate, ça c'est moins 20%, c'est ça? Il y a quoi d'autre? Les produits?
Les bons de réduction que vous avez ça et là sur le produit même parfois. Ouais. Et puis
les produits en lot, là, c'est-à-dire deux pour.
Quand vous avez un gratuit par exemple ou 2 euros sur ce.
Deux pour le prix de 3, vous faites arnaquer.
L'autocollant que vous retirez.
C'est 3 pour le prix de 2.
Et puis la remise différée, c'est-à-dire le cagnottage sur votre carte de fidélité. Ouais. Donc ça, on n'a pas pu le mesurer. Nous, on s'est concentré sur la remise immédiate pour savoir si ça passait déjà.
Mais les Français, ils préfèrent quoi en termes de promotion s'ils avaient le choix?
La remise immédiate, évidemment.
Celle qu'on voit tout de suite en caisse sur le ticket. Bien sûr.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a vérifié la réalité des remises immédiates dans les grandes surfaces.
Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus fréquemment en promotion que d'autres? Si oui, lesquels? Et comment on l'explique? Est-ce qu'il y a d'ailleurs, je sais pas, des petites marques, des petits produits qui seront jamais en promo?
Ce seront plutôt des produits que les Français consomment au quotidien, notamment le café, par exemple, le dentifrice, des choses comme
jamais
ça.
Jamais en promo, ça?
Toujours en promo. Souvent en promo, on va dire. Les produits de grandes marques aussi, les produits d'appel, les produits dont les Français ne se passent pas, la tablette de chocolat qu'on préfère, le soda qu'on préfère, les choses comme ça. Voilà, c'est les produits qu'on consomme au quotidien et dont les Français ont du mal à se passer.
Je crois qu'il y a... Il y a certaines marques de café qu'on trouve quasiment qu'en promo. Il y a certaines dentifrices.
Toute l'année, quasiment.
Toute l'année. Et quand vous lancez un nouveau produit, quand vous êtes une multinationale, ça a été le cas, par exemple, d'un vendeur de tablettes de lave-vaisselle qui veut devenir numéro 1 du marché.
Et on les a bien vus l'année dernière dans les supermarchés. Exactement laquelle je me suis fait avoir, je ne sais pas. Ça lave bien la vaisselle, en tout cas.
Donc, ils étaient tout le temps en promo et ils ont fait une centaine de campagnes de promotion dans toutes les
grandes
surfaces.
J'en ai six paquets à la maison.
C'est légal, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, de qu'il y ait des promos qui durent comme ça toute l'année? Personne ne régule ce genre d'offres? C'est pas encadré par la loi?
Non, c'est pas du tout encadré par la loi, sauf, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, à partir du moment où le distributeur peut prouver de la loyauté de sa promotion. C'est compliqué à contester.
Alors vous, vous êtes des pros du terrain, évidemment, à 60 millions de consommateurs et à l'Institut National de la Consommation, mais nous et nos auditeurs, on n'est pas forcément, on n'en connaît pas forcément toutes les ficelles. Quels outils on peut avoir, nous, pour comparer les prix en magasin? Quels sont, on va dire, les 2-3 bons conseils que vous pouvez nous donner pour justement repérer la promo où là, vraiment, c'est de l'arnaque, c'est clair, et l'autre où, bon, on va y gagner quand même quelque chose, quoi?
Bah, promotion, comme je le disais tout à l'heure, c'est une mise en avant. On a remarqué que dans 20 à 30% des cas de promotion, il n'y avait pas spécialement une bonne affaire au bout. Ce n'est pas parce que le prix est énorme qu'il est intéressant. Donc, attention à ça. Attention aussi dans les têtes de gondole ou dans les rayons spécialisés. Parfois, il y a des erreurs. Ils mixent les produits de la même marque en promotion et un produit à une référence un peu différente. Par exemple, un pack de bière. Le pack de bière en promo, c'est celui de 33 centilitres. Si vous prenez celui de 25 centilitres, la promo... Et ça arrive.
L'avantage, c'est qu'en ce moment, on est en plein dry January, donc on n'a pas besoin de l'acheter, le pack de bière. Donc c'est très bien.
Mais je crois qu'il y a d'autres moyens de nous duper en modifiant les emballages, par exemple, je crois.
Oui, parfois, ils modifient la quantité qui est présente dans l'emballage. Ils la réduisent de 5 grammes. Donc, c'est bien renseigné sur l'emballage que c'est passé, par exemple, le sachet de gruyère râpé est passé de 180 grammes à 175 grammes. Mais comme l'emballage n'a pas changé, on ne fait pas forcément attention. Donc, il faut vraiment faire attention aux quantités qui sont renseignées. Il y a aussi
Mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils font exprès de nous duper. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Ce qui va se passer là, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est qu'on va avoir de fortes augmentations de prix dans les grandes surfaces.
L'inflation.
Ça, on peut vous le dire. On n'y est encore pas. On a les pâtes.
On a déjà l'impression que c'est très cher, mais ça va être encore plus cher.
Ben, les pâtes ont augmenté de 9%, c'est ça?
C'est ça, le beurre aussi, il faut s'y attendre.
Il y a certaines marques qui sont à 60% d'augmentation. Les marques de distributeurs, voilà. Les pâtes, c'est du blé dur. Les blés durs, c'est envolé. Donc, alors, ce qu'ils vont faire, effectivement, ils vont trouver des stratagèmes, y compris en promotion, pour faire passer ces hausses de prix sans que ça se voit trop sur l'étiquette. Donc, évidemment, j'ai déjà vu... un nouveau beurre d'une grande multinationale française qui fait 225 grammes alors que le standard est à 250 grammes. Donc, c'est un nouveau beurre. C'est peut-être mieux que celui qui était avant. Mais attention, regardez bien le prix au litre, au kilo. Et on va être confronté à ça dans les grandes surfaces. Et d'ailleurs, on lance aujourd'hui un observatoire de l'inflation masquée, comme il y a 10 ans, quand il y a eu la précédente crise des produits agricoles. Et donc, on appelle les gens à nous signaler, à nous prendre des photos de avant-après du même produit.
Pour on peut être utile dans cette observation, nous,
auditeurs. Oui, c'est collaboratif, on fonctionne assez comme ça.
Eh bien, merci à tous les deux. Surtout, vous ne bougez pas, d'autres promotions arrivent, d'autres rabais, réductions, ristournes qu'on va décortiquer ensemble dans quelques minutes. Et ce sujet des promos pas très réglo, ça intéresse évidemment nos auditeurs. Ils ont aussi des questions pour vous. D'ailleurs, je le rappelle, vous pouvez encore nous en laisser des questions au 3921, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur nos réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On traque ce matin les vrais ou les fausses promos de la grande distribution dans notre dossier du jour, en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs. Et pour en parler, ils sont toujours à nos côtés. Sophie Raymond, économiste à l'Institut National de la Consommation, et Lionel Mauguin, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs. Alors, est-ce que c'est important pour les grandes surfaces, ces offres promotionnelles? Est-ce que ça leur rapporte vraiment énormément? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça leur rapporte?
Oui, c'est vraiment très important pour elles. Déjà, ne serait-ce que pour continuer d'attirer le consommateur, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché de la grande consommation. Donc, il y a notamment Amazon qui commence à arriver sur le marché alimentaire. Et puis, il y a aussi le regain des petits commerçants. Voilà, les Français ont envie de retourner dans les petites boutiques en centre-ville, parce que l'hypermarché reste toujours associé à cette idée de la grande consommation. Donc, déjà, il y a une perte d'intérêt pour les grandes surfaces. Et donc, du coup, elles ont besoin de ça. Pour faire rentrer
chez eux.
Voilà, pour continuer à attirer les consommateurs. Et aujourd'hui, ça représente environ 20% de leur chiffre d'affaires.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme.
Mais qui gagne le plus, au fond, Sophie Raymond? Est-ce que c'est les enseignes, vraiment? Ou est-ce que les fabricants du produit aussi trouvent leur compte, j'imagine?
Non, pas du tout, parce que finalement, comme l'a dit Lionel très justement tout à l'heure, en fait, finalement, les promotions sont décidées dès les négociations commerciales avec les fournisseurs. Donc, du coup, les distributeurs, généralement, mettent la pression sur ces négociations commerciales pour acheter à un prix vraiment très bas pour pouvoir ensuite pratiquer des promotionnariats. Donc, finalement, la baisse de prix, elle est impactée sur les producteurs et pas sur les distributeurs.
Et pourquoi ils font ça? C'est pour écouler les stocks invendus? Enfin, je parle des promotions, ou c'est pour faire connaître les produits? C'est quoi l'objectif?
C'est pour vendre. Je vous l'ai dit, je crois, mais quand vous êtes en prospectus, comme fournisseur, vous avez la certitude de vendre 25% de plus de votre produit, 50% s'il est mis en avant dans l'hypermarché. Donc c'est considérable. En fait, les trois parties ont un gros intérêt.
Donc ces prospectus dans les boîtes aux lettres, ça fonctionne vraiment beaucoup.
Les fournisseurs et nous, les consommateurs, parce que, encore une fois, on n'a pas trouvé de promo qui ne passait pas en caisse. Simplement, on n'a pas forcément le produit, on a parfois un format atypique, et ce qu'on révèle aussi dans cette étude, c'est que certains produits ressortent plus chers après la promotion qu'avant la promotion.
Comment c'est possible ça?
Eh ben, on a l'impression que ça peut servir de paravent à une augmentation des prix. Vous avez des yaourts à 3 euros, moins 30%, et on les retrouve à 3,10 après la fin de la promotion. Donc ça, c'est plus de 10% des cas qu'on a trouvé.
Il faut partir avec une calculette, en fait, dans son hypermarché, quoi.
Mais être vigilant toute l'année, quoi, en fait. Ouais, avant, pendant, après, quoi.
De toute façon, les gens, ils sont vigilants, je crois, parce que c'est leur argent, donc bien sûr qu'ils sont vigilants.
Ça va, on va
mettre
du temps à faire
les courses, savoir, quoi. Et encore une fois, ça va se multiplier, ça. C'est-à-dire que, sans doute, on aura des produits en promotion, et après, vous aimez le produit que vous avez acheté en promo, vous voulez le retrouver. Ben, ce sera plus cher.
Ça arrive que des opérations promotionnelles comme ça ratent complètement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Est-ce que, je sais pas, vous avez des exemples de produits sur lesquels vous avez... Non, ça vous n'avez pas pu peut-être forcément remarquer, mais dites-nous.
En fait, la qualité des promotions, ça dépend de la tenue du magasin. Si le magasin est bien tenu, en ce moment, je dois vous dire, on ne va pas les accabler parce qu'ils sont assez décimés, les équipes dans les hypermarchés. Donc, si vous ne trouvez pas les produits forcément, ben voilà, il y a quand même un certain nombre de... comme dans toute la société, dans toutes les sociétés
quelques
actuellement.
Raisons.
Voilà. Mais la rupture de stock, c'est 20 à 25% plus important pour les produits en promotion que pour les produits normaux. Donc voilà, il faut que le magasin soit bien tenu. Et dans les magasins bien mal tenus, parfois vous retrouvez pas le produit. Il y a des produits qui sont fabriqués uniquement pour la promotion, qu'on ne retrouve ni avant ni après. Ça, on a pu le vérifier. Et donc... donc, faut le savoir.
Faut être vigilant. On a une question. Loïc, qui nous écoute depuis tout à l'heure, nous demande « J'ai acheté un produit en promo avec une réduction immédiate, mais je me suis aperçu après coup que la réduction n'avait pas été appliquée. À qui dois-je faire ma réclamation? Au distributeur ou à la marque directement ?»
Sophie. Alors, il peut commencer justement à faire sa réclamation auprès de l'enseigne, mais ce qu'on leur conseille aussi, c'est de faire un signalement sur signalconso.fr pour que justement les autorités puissent voir quelles enseignes sont interpellées par les consommateurs. Et voilà, ensuite, il sera pris en charge à partir de ça.
Bon, on a compris avec tout ce qu'on vient de se dire dans cet éclairage qu'il y a quand même beaucoup de promos qui ne sont pas réglo. Mais c'est quoi alors une bonne promo? Comment on les repère et sur lesquelles vraiment on peut foncer? Pas les yeux fermés, on a compris, aucune, mais qu'est-ce que ce serait une bonne promo, Lionel? Il y en a quand même encore, on peut se faire des économies de certaines fois.
Encore une fois, la plupart passent en caisse, on n'a pas trouvé de problème là-dessus.
Qu'elles passent en caisse, d'accord, mais elles vont vraiment me faire des économies?
Oui, mais ça dépend de vous. Et là, c'est aux gens de déterminer s'ils ont vraiment besoin de trois produits pour le prix de deux, ou le deuxième à moitié prix. Est-ce que ça correspond à un besoin chez eux? Est-ce qu'ils peuvent pas prendre une marque de distributeur qui est moins chère, mais en une seule fois? Et ensuite, faire valoir leurs droits. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire-là, c'est que vous déplacez exprès pour les promos et vous ne les trouvez pas. Premier jour.
Mais c'est
donc
justement
là, ne pas hésiter à saisir le magasin pour exiger de commander le produit au prix promo. Et s'ils sont récalcitrants, Signal Conso, 60 millions de consommateurs, nous on relaye aussi.
Très bien. Ouais. Vous venez de répondre à la question de Ludivine sur Instagram qui dit « J'arrive jamais à trouver les promos dans mon supermarché, je trouve pas les produits, c'est très frustrant, est-ce qu'ils font exprès ?» Eh bien, Ludivine, à vous de vous faire une petite idée après cette émission.
C'est clair.
Effectivement, ça pourrait être le cas.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin et de nous avoir aidés à y voir plus clair dans cette jungle des réductions et promos en tout genre dans les supermarchés. Il y a bien sûr des bons plans, mais attention à ne pas foncer donc les yeux fermés sur n'importe quelle offre très alléchante.
Ah oui, merci beaucoup. On va à présent changer totalement de thématique, quoique les produits dont vous allez nous parler, enfin dont on va se passer tout le mois de janvier, eh bien sont aussi souvent en promotion. On va parler du Dry January, vous savez, le mois sans alcool pour se questionner. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Voilà, c'est le moment d'accueillir notre invitée santé du jour. C'est vous, professeur Amine Benyamina. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous êtes également président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Alors, professeur, depuis 6 jours, le challenge a démarré. C'est le fameux Dry January. En français, janvier sec. En fait, c'est un peu comme mois sans tabac en novembre. Sauf que l'idée, là, c'est de plus boire d'alcool, de faire une pause. Je dis plus boire d'alcool parce que c'est pas l'idée, c'est pas d'en boire forcément plus jamais de sa vie. C'est quoi l'objectif alors de Dry January?
Alors, le défi de janvier, Dry January, janvier sec. Alors, à la différence du mois sans tabac, qui est le mois de novembre, que vous connaissez bien, Mélanie, c'est qu'il n'est pas soutenu par les pouvoirs publics.
Et Julia, vous savez, elle a arrêté de fumer depuis deux mois. Hein,
oui, ben, je me suis servi du mois sans tabac. Absolument. Bon, donc maintenant, je vais arrêter de boire. C'est super.
Donc, il n'est pas soutenu par les autorités publiques. On reviendra.
Ouais.
Et un petit mot d'historique, je vais être rapide. 2013, les Britanniques ont décidé d'un commun accord de faire le Dry January, c'est-à-dire après les excès du mois de décembre, on se dit bon, on va lever le pied sur l'alcool. Parce qu'il y a un gros problème d'alcool aussi de l'autre côté. Ils ont avancé eux, pas nous, comme les Russes. Et donc du coup, on a clairement mis en place quelque chose qui était d'abord et avant tout ludique. L'idée, ce n'est pas de faire des Britanniques en 2013 et encore moins les Français maintenant, des buveurs d'eau pendant le mois de janvier et les pousser vers l'abstinence tout le reste de l'année. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, tiens, je vais arrêter de consommer parce que j'ai fait des excès, comme j'ai fait des excès surtout sur l'alcool, le mois de janvier, et je vais voir comment je vais réagir et ce que je vais en tirer. Et ce qu'on en a tiré, puisque la question a été posée, c'est d'abord, on va alléger le porte-monnaie, on en parlait dans le sujet d'avant, on va alléger la balance, on perd du poids, on va mieux dormir, on va améliorer la tension artérielle, on va améliorer la couleur de la peau, on va améliorer un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et donc, du coup, c'est plutôt pas trop mal.
Ah, c'est plutôt motivant. Alors, ça s'adresse à qui? Aux jeunes plutôt, ou c'est pour tout le monde, ou franchement pour ceux qui ont vraiment un problème avec la boisson?
Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le défi de janvier, c'est une opération générale, conviviale, qui intéresse tous les Français, et j'ai envie de dire tous les Européens, parce que les Belges, 600 000, et chacun va faire son défi de janvier en fonction de ce qu'il est.
Ça s'appelle la tournée minérale,
absolument,
non?
Absolument, en février.
C'est ça, c'est pas le même mois.
Absolument. Et quand, évidemment, si vous êtes un très gros consommateur, je vous déconseille de vous arrêter comme ça, il y a des signes de sevrage, mais ça vous interpelle et vous allez vous dire, tiens, je sors du déni, je crois que j'ai un vrai problème d'alcool.
Et si je diminuais déjà, par exemple.
Et si je diminuais déjà. Voilà. Et puis, c'est plus simple lorsque tout le monde le fait.
Bien sûr.
Parce que vous n'êtes pas stigmatisé si vous dites, bon, écoutez, moi, j'ai un problème d'alcool, j'arrête. Et ceux qui consomment de temps en temps, ben, ils vont arrêter et certains vont se rendre compte, c'est le cas de beaucoup, dans mon entourage, en tout cas.
Dans finalement, notre aussi, hein, sûrement.
Finalement, ce petit verre que je bois tous les soirs, c'est pas beaucoup, j'ai du mal à m'en passer.
Finalement, tranquillement. Alors rappelez-nous, professeur Benyamina, quel est l'impact de l'alcool sur notre santé de façon générale? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop banaliser tout ça. Tout le monde souhaite arrêter de fumer, on sait pourquoi. Sur l'alcool, c'est pas encore hyper clair. On a l'impression que l'alcool, c'est en France, c'est un cas particulier.
Ouais, alors je vais un peu casser le moral. C'est l'alcool, on n'est pas obligé d'en boire. Donc le gros problème dans les pays européens et en France en particulier, c'est qu'on est des champions d'alcool, il est partout. Bon, c'est pas plus mal, mais bon, ça fait du mal. Voilà. Donc, l'alcool, c'est 42 000 morts directement liées à l'alcool tous les ans, avec une soixantaine de maladies, dont les deux grosses maladies, c'est la sphère cardiovasculaire et les cancers, directement liées à l'alcool. C'est quand même la première cause évitable de mort. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de consommer de l'alcool, on est obligé de manger, et parfois on mange mal, et on peut avoir un cancer parce qu'on mange mal.
Il suffit d'arrêter.
Parce qu'on appelle des causes évitables. C'est un cas de violence sur trois, notamment les violences aux femmes, les violences conjugales, dont on parle là maintenant. C'est un enfant qui naît mal formé sur 8. Oui. Donc on a beaucoup de
c'est de bonnes raisons de se poser des questions.
Public, hein. Ouais. Sur 3, c'est quand même le mois de janvier, il est soft, il est cool, il est tranquille, mais ça nous permet de voir un peu où on en est.
Est-ce que le risque est le même, peu importe l'alcool? C'est pas la même chose, j'imagine, entre une petite bière et un verre de whisky ou si?
Alors c'est pareil.
C'est pareil.
C'est la même chose et c'est très bien de poser cette question, Julia. Ce qui compte, ce n'est pas la robe, mais c'est le contenu.
Ouais.
Ou c'est sous la robe, en gros. C'est-à-dire la teneur en alcool. Ce qui est important, c'est la teneur en alcool. Moi, j'ai des patients qui ont été transplantés du foie parce qu'ils ont eu des cirrhoses et ensuite des problèmes, qui étaient des consommateurs de cidre, mais ils consommaient des litres de cidre.
De cidre, ah oui.
Oui, du cidre, c'était de l'alcool. Le titrage en alcool.
C'est qu'on a pensé que le cidre, le bolet de cidre avec les crêpes,
c'est rien. J'ai appris que le cidre était responsable des cirrhoses du foie quand j'ai travaillé avec un centre de transplantation du foie chez des patients qui venaient. Donc moi j'ai des patients, et ça c'est vraiment c'est défensif, il faut le dire, hein, à vos auditeurs, je le dis. Et ils me disent, écoutez docteur, moi je ne prends pas de whisky, je ne prends pas des alcools forts, je prends du champagne. Non,
ça
le champagne,
plus, ça marche pas,
c'est de l'alcool.
On dirait moi.
Voilà. Est-ce qu'on sait si... Je ne prends que du vin blanc, c'est de l'alcool.
Professeur Benyamina, est-ce qu'on sait si depuis 2 ans, notamment à cause des confinements, de la crise sanitaire, est-ce que les comportements des Français vis-à-vis de l'alcool ont changé?
Oui, ils ont changé. Alors moi j'ai des... Ils ont changé, on a fait avec Addiction France, l'association, donc la grande association française, on a fait un sondage qui montrait que pendant le premier confinement, les consommateurs réguliers ont majoré leur consommation. Toutes les consommations, alcool, tabac, cannabis, drogue, benzodiazépine. Ça peut s'expliquer par... Bon, c'est pas le but de le rapporter, mais le moral n'est pas très bon.
On s'ennuie à la maison.
On a fait des apéros Zoom. Bon, ça explique.
Ça détend.
Voilà. Deuxième élément, pendant cette période, on a consommer de l'alcool, parce qu'on a laissé, et tant mieux, hein, l'achat de l'alcool libre, hein, rappelez-vous. Hein, et c'était à notre demande, parce qu'on s'est dit, si on ferme tout, on va avoir un embouteillement, des dépressions et des sevrages sauvages dans les maisons, puisqu'on était confinés. Donc il y a un vrai lien entre la société dans laquelle on vit, les accidents de la vie en commun, notamment par exemple une pandémie, et la consommation des drogues, l'alcool en premier chef, et les problématiques psychiatriques
très
et psychologiques.
Bien. Professeur Benyamina, on va se retrouver dans un très court instant. On n'en a pas fini avec vous. On va vous demander justement quelques conseils pour le réussir, ce Dry January. Car même quand on n'a pas de conduite problématique avec l'alcool, il y a souvent les verres qu'on boit pour le plaisir et puis ceux qu'on n'arrive juste pas à refuser socialement. Donc on a besoin de vous pour comprendre tout ça et arriver à dépister l'addiction quand elle pointe son nez. On y revient dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour, en plein éclairage sur cette opération, le Dry January, un mois de janvier sec sans alcool. On fait le point avec vous, professeur Benyamina. Je rappelle que vous êtes addictologue, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Bon, si on veut se mettre au mois sans alcool, comment on s'y prend? Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare? On le décide comme ça du jour au lendemain? D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas démarré, on est le 6, on a le droit de démarrer le 6, c'est bon?
Oui, évidemment, c'est le principe du défi. Le principe du défi, c'est un objectif, on essaie de le tenir.
On peut faire du 6 au 6, quoi.
Évidemment, si on ne le tient pas, on va pas se faire frapper. Voilà, on ne va pas se faire taper sur la main. Non, il faut le préparer dans sa tête, parce que comme on a fait des excès quasi prescrit depuis le 1er décembre. Et donc on se dit, bon, à partir du 1er, vraiment, on ne se laisse pas surprendre par la dynamique dans laquelle on veut se mettre. Mmh. On se prépare vraiment. Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est de vider les bouteilles à la maison.
Hein. Ça n'y a plus rien.
Il ne faut pas laisser quand même
les vider
31,
dans l'évier.
Je veux dire, dans l'évier.
Oui, merci.
Voilà, ça se vide la veille ailleurs, mais ensuite, ce qui reste, ou bien les données.
Vous avez commencé le 2 janvier. Hein, vous.
Non, c'est moi.
Non,
c'est
vous, Mélanie.
C'est moi.
Amine, c'est le premier, évidemment.
Vous avez commencé le premier.
Bah, oui, complètement, oui.
Et vous, Julia, vous n'avez pas commencé encore?
Moi, je ne le fais pas. Mais moi, je bois peu avec mes horaires.
Oui, mais vous êtes concernée.
Il faut quand même. C'est bien.
Parce que lorsque on boit peu, on a l'impression qu'on est capable de se passer du peu. Et donc, défiez-vous.
Oui, c'est juste pour faire le défi. Vous avez tout à fait raison, professeur, parce que je sais que, par exemple, le jeudi soir, vers 18h, je m'autorise pour la première fois depuis très longtemps une petite goutte d'alcool et je l'attends comme une toxico, quoi. Donc, c'est qu'il y a un vrai petit problème.
Non, mais je pense qu'il y a un plaisir qui est associé à ça. Je veux quand même pas. Il y a un plaisir. C'est très important.
On a le droit de garder le plaisir, quand même.
Évidemment, il faut maintenir le plaisir. Attention, on passe pour des ayatollahs de l'abstinence. C'est faux, hein. Vous savez que les addictologues en France ne sont pas ça. C'est le lobby qui le dit, hein. C'est pas nous. Donc, le plus important, c'est d'avoir un équilibre sur sa manière manière de gérer sa consommation. Le plus important, c'est de ne pas se laisser échapper, de ne pas se laisser, de ne pas perdre sa liberté.
Ça, alors c'est un défi, il faut le prendre comme un jeu, voilà. Un jeu qui donne l'occasion de réfléchir.
Il y a plein d'outils.
Par contre, je pense que quelque chose qui peut être utile, c'est quand même de prévenir ses proches et son entourage. Parce que là, on risque d'avoir quelques bananes sous le pied.
C'est pour ça que vous êtes très important, la MEDIA et Europe 1.
Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'en France, on n'est pas vraiment aidé. On a beaucoup de sollicitations, des pots de départ, enfin là, un petit peu moins en ce moment à cause du Covid, mais quand même, des fêtes en famille. C'est presque culturel, l'alcool. Est-ce que le plus simple, c'est pas de se dire, bon, en janvier, zéro vie sociale, je reste chez moi et je bois des sodas.
Il est triste,
quoi.
Le dry January.
Mais non, il faut pas le faire
coup,
comme ça, ouais. Parce que ce qu'on est en train de dire et de répéter, c'est qu'il est possible d'avoir une relation sociale conviviale, sympathique, et en retirant l'alcool, gentiment. Parce que si on associe la non-consommation d'alcool à de la sinistrose, on n'y arrive plus. C'est pas possible. C'est comme ça que la prévention ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on est régulièrement disqualifié en tant que praticien. Ça ne marche pas. Il y a moyen de faire. Il y a une période, hein, y a une période de chevauchement, une période de crise. Ensuite, on peut faire. On peut faire.
Bon, allez, moi j'ai besoin de vos conseils pratiques. Hein, je suis sûre que vous avez des astuces très simples à nous conseiller. Si durant ce mois de janvier, on se retrouve quand même dans des situations où bah, il va falloir expliquer aux gens, bah non, là je bois pas, je vais rester à l'eau, je vais prendre un jus de fruits. Franchement, parfois en France, on peut nous prendre pour, on se dit, ah là là, elle a un problème avec l'alcool. Ou alors, elle a un problème avec l'alcool, elle m'en avait pas parlé. Ou elle est enceinte. Comment on peut expliquer ça?
Alors pendant le mois de janvier, ce qui est sympa et facile, c'est que tout le monde le fait et qu'on en parle. Donc vous dites, bah, je fais le dry January, je fais le défi. Ils ne vont pas trop insister. En revanche, si vous le faites en février, mars, avril, vous allez vous rendre compte de la pression sociale en France.
Moi, on me demande tout le mois de janvier si je suis enceinte, effectivement, quand je refuse les verres.
De la part de ceux
peut-être
qui sont capables.
Parce que je suis grosse.
Absolument. Il y a une revanche de la part de ceux qui sont capables de le faire, ou de se prémunir finalement contre les excès pendant le mois de janvier, et qui s'inversent le reste des mois. Donc profitons.
Mais il faut se justifier avec l'alcool. C'est quand même pénible, hein, parce que quelqu'un qui ne fume pas, il n'a pas à s'expliquer. Il n'est pas en train de dire.
On vous félicite même.
Je suis désolé, hein, j'allume pas une cigarette. Ouais. Mais par contre, quand vous vous apprêtez à ne pas boire, vous êtes obligé de prévenir. C'est fou, ça, non?
Ben, c'est fou. C'est tout le travail qui n'est pas fait par les autorités. Qui n'est pas fait par les politiques en France, c'est ce qu'on appelle la dénormalisation. Ce n'est pas normal de se retrouver à consommer de manière systématique. Alors, vous entrez n'importe où en vous tendant directement un verre et si vous ne buvez pas, vous êtes suspect de quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas normal. On peut savoir dire non. Ouais, c'est un peu comme ont vécu il y a quelques décennies les végétariens ou bien les véganes.
Ils pas obligés de manger de la viande.
Des extraterrestres, c'est plus le cas.
Bien sûr.
Donc il faut faire ce travail.
Par rapport au mois sans tabac où c'est zéro tabac, est-ce que là, on va vous demander l'autorisation? Est-ce qu'éventuellement on peut se dire, j'arrête pas complètement pendant le mois de janvier, mais déjà je diminue? Est-ce que c'est déjà un bon moyen de réfléchir ça?
Le plus important, c'est d'être dans la dynamique.
Et dans la réflexion.
Faites-le. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait la promotion du Dry January à la tête de grandes associations qui ne l'ont pas fait entièrement il y a quelques années.
Ouais, d'accord. Donc déjà, si on ne boit qu'une fois par semaine un verre, on peut tirer.
Je ne vais pas vous le prescrire, Julien.
D'accord, je sais, j'ai compris. On n'y arrivera pas, Mélanie. Mais quel est l'intérêt si on s'arrête juste un mois et qu'on repart de plus belle après? Ça va pas nous faire,
bonne question.
J'ai des très bonnes questions.
Oh là, elle a que des bonnes questions, cette Julien.
Alors, quand on s'arrête pendant un mois, on modifie son schéma de pensée à son insu, dans le bon sens. C'est-à-dire l'expérimentation du bien-être, d'un meilleur sommeil, d'une perte de poids, et quelque chose qui va encore être utilisé tranquillement malgré vous les autres mois. Et ça a été montré, ça a été publié par les collègues britanniques en 10 ans d'avance sur nous, hein. Et on se rend compte qu'on est un peu plus libre pour dire non. On est moins systématique sur la consommation d'alcool les autres mois.
Mais la peau, comment on explique l'effet de l'alcool sur la peau ou sur le sommeil?
C'est le vieillissement des cellules. Vous savez que l'alcool, c'est un produit toxique. Vous mettez n'importe quoi, vous le plongez dans l'alcool, ça flétrit, ça mûrit, c'est pareil. C'est exactement ça.
Imaginez votre peau.
Tout à fait physique.
D'accord. Et pour ceux qui vont pas arriver à tenir hein, ce challenge, à faire cette pause d'un mois, le bilan c'est quoi? Qu'ils ont donc une consommation peut-être problématique. Est-ce que ça c'est sûr à 100%? Est-ce qu'il faut consulter si on n'arrive pas à tenir?
Alors il y a deux types de personnes qui probablement à mon sens ont du mal. Ceux qui ont chevillé au corps le rituel du verre, sans avoir des problèmes, et ils sont coincés dans le rituel, dans la pression.
Si vous n'arrivez pas à enlever votre verre du jeudi soir à 18h, voilà. Julia, il faut vous poser des questions.
Et puis il y a ceux qui boivent beaucoup, et qui physiquement sont tout à fait dépendants, et même psychologiquement. Ceux-là doivent évidemment consulter. Les deuxièmes, je pense qu'après ce mois...
C'est quoi boire beaucoup?
Boire beaucoup, c'est lorsqu'on n'est plus capable de s'arrêter de boire, lorsqu'on commence à boire. Ce n'est pas boire tous les jours. C'est lorsque on consomme, il y a une perte de contrôle.
J'allais vous dire boire tous les jours, mais il y a des personnes qui, par exemple, ne boivent pas la semaine et prennent des bitures le week-end. Et ça, c'est quoi?
Lorsqu'on perd le contrôle et lorsqu'on a des bitures avec des dommages qui s'installent, en aigu, on doit se poser la question sur son rapport à l'alcool.
Alors, quel est l'impact d'un arrêt de consommation d'alcool durant un mois? Enfin, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre corps au bout d'un mois? Qu'est-ce qui va se faire? Parce qu'au bout d'un mois, je vais perdre quoi?
On peut perdre 2 kilos, vraiment du cœur, on trouvera tout.
D'accord. Non, mais sur le sommeil, déjà, c'est
le
sûr.
Le sommeil, on va mieux il s'améliore. Dormir. C'est ouais. évident, c'est un critère qui est rapporté tout le temps. Une perte de poids, c'est évident. Vous savez qu'un verre d'alcool est plus gras que n'importe quelle sucrerie. Hein. Quel gâteau, c'est vraiment très gras.
Vous fera plus grossir,
ouais. Chez les hommes aussi, vous savez que la bedaine, en vérité, c'est pas que la bière. C'est une topographie d'installation du gras dans le ventre. Mm-hmm. Alors, je dis ça aux hommes qui souhaitent perdre et qui
l'alcool,
n'y arrivent pas.
Donc, l'alcool, c'est effectivement très sucré.
C'est très sucré. Ouais.
Bon. Et pour y arriver, est-ce que vous avez des conseils pratiques? Parce qu'on sait que l'un des leviers d'efficacité du mois sans tabac, notamment, c'est l'aspect collectif de la chose.
Évidemment.
De se mettre en groupe, d'être sur les réseaux sociaux, ça existe ça pour ça le existe. Dry January?
Ça existe, vous allez sur le site, vous avez dit tout à l'heure, Mélanie, addicted.fr, vous êtes sur TryDry, c'est une application dans laquelle vous vous inscrivez, il y a des forums, il y a des conseils, et on a...
C'est assez ludique en fait, moi je l'avais téléchargé l'année dernière.
On a sur, sur Twitter et sur
on voit les économies aussi.
Complètement. On a Ale Colline, vous savez que ce sont avec des illustrationnistes... Illusionnistes. c'est un éphémérie, donc c'est un peu de calendrier de l'Avent, et qui tous les jours nous donne des conseils et mettent en communauté un certain nombre, tout le monde finalement. Donc cette année, par rapport aux autres années, on a même les villes qui se sont associées.
Ah,
la ville de Paris par exemple, Grenoble.
Mais pas les pouvoirs publics, alors on a quelques villes, mais comment on explique ça? Pourquoi les pouvoirs publics ne suivent pas alors que le mois sans tabac, il y en a partout?
C'est que quand même l'industrie et le lobby de l'alcool et viticole en France est très puissant. Hein. Au départ, lorsqu'on avait souhaité impliquer Santé publique France et les pouvoirs publics, la filière viticole a quand même reçu le président de la République et il a annoncé que bon, il faut pas emmerder les Français.
Il donc a dû être bien reçu déjà.
Voilà. Donc finalement, il n'y a pas eu de soutien de la part des pouvoirs publics. Alors ils sont en train ils ont fait un contre-feu parce que aujourd'hui, le président de la République reçoit le prix de la revue des vins de France, vous voyez, en plein défi de janvier, c'est pas mal.
Effectivement, on a aussi de plus en plus de boissons sans alcool, hein, des vins ou des bières sans alcool. C'est une bonne solution si on veut rester festif et justement ne pas rester à l'eau ou au soda, selon vous?
Alors, il faut éviter le soda parce que je pense que le gros piège, c'est de passer dans le sucré.
Ouais.
Donc, il faut aller vers quelque chose de très sympa. Faire des jus, faire des mélanges, un peu les mélanges détox. Il y a plein de recettes qu'on propose sur les sites. Il faut éviter de passer d'un truc à l'autre. Il faut vraiment changer de philosophie pour ce moment.
Oui, mais la bière sans alcool, genre, c'est tout ça,
non? Il y a toujours de l'alcool dans la bière. Et si vous gardez la bière sans alcool, vous mettez l'esprit dans lequel vous êtes en train de, finalement...
Consommer
malgré
un
tout.
Truc,
c'est un peu comme les sodas sans sucre, ça stimule l'insuline, hein. C'est pareil.
Ouais,
c'est
vous disiez tout à l'heure que les personnes qui souffrent d'addiction à l'alcool, pour le coup, par contre, ça peut être dangereux de se lancer dans le... C'est quoi les risques d'un sevrage brutal comme ça? Vaut mieux se faire aider, le mois sans alcool, c'est peut-être pas l'opération pour
eux. Le mois sans
eux.
Alcool, pour les personnes dépendantes et malades d'alcool, c'est un mois dans lequel elles peuvent exprimer, avec l'aide finalement de tout le monde, l'envie de se faire aider. Elles peuvent exprimer leurs difficultés sans se sentir stigmatisées. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque Julia m'a posé la question, j'ai dit, mais ça concerne tout le monde. Mmh. Et certaines personnes nous disent, mais moi, je ne suis pas concernée, je ne vois pas beaucoup. Ça n'est pas un mois d'abstinence, une prise en charge globale. Hein. Ce n'est pas une thérapie de groupe. Non, non. C'est un groupe ludique, c'est une dynamique sociale qui permet... de finalement de s'éprouver, de s'arrêter, de sentir un peu où on en est.
Et quels sont les signes qui ne trompent pas et qui doivent me faire dire j'ai un problème avec l'alcool?
C'est lorsque vous l'avez dans la tête, c'est-à-dire lorsque vous êtes obsédé par la consommation, lorsque vous anticipez la consommation, lorsque vous anticipez l'angoisse, et ensuite, ça c'est ce qu'on appelle le craving. Voilà, et ensuite il y a tous les signes que, évidemment, je ne peux pas être professeur de médecine pour les voir, hein. C'est les signes physiques, les tremblements, les difficultés à assumer son rôle social, professionnel,
marital, vraiment au travail, à s'occuper de ses enfants correctement.
Ensuite, ça, c'est les dommages qui s'installent.
Je vais vous offrir un extracteur de jus, Mélanie.
Ne vous inquiétez pas, moi, ça va très bien. J'ai commencé depuis le 2 et ça se passe à merveille. C'est très clair. Merci beaucoup, professeur, pour cet entretien et pour ces rappels importants sur les risques, malgré tout, de la consommation d'alcool. D'ailleurs, je le rappelle une nouvelle fois, les recommandations, les bons repères pour limiter les risques pour la santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours.
Oui, c'était important de le rappeler. Maintenant, nous allons basculer vers la séquence tendance de bienfaits fait pour vous. Il y aura d'abord la chronique gastronomie de Marion Sauveur et il y aura de la friandise, car dans un instant, elle nous dit tout sur la guimauve. C'est bon ça. Ensuite, on écoutera les conseils sur les dernières tendances qui nous aident à nous lever tous les jours du bon pied. Ça sera avec Philippine Darblay. Et enfin, c'est Cécile Coumeau qui bouclera cette table des tendances. Elle va nous parler aujourd'hui de ces start-up qui sont totalement au service des seniors. Donc, vous avez compris, des tas de découvertes à venir. Une seule chose à faire, restez sur Europe 1.
Europe 1, 11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous chouchoute, on vous dorlote dans tous les aspects de votre vie. Et à présent, il est midi et c'est donc naturellement votre appétit qu'on va satisfaire. On va commencer notre partie tendance avec la chronique gastronomie de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors je crois que vous allez réveiller nos papilles avec un produit sucré qui va même nous faire retomber en enfance,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui, des petites guimauves réconfortantes comme un câlin. On va même apprendre à les faire tous ensemble.
Génial. Ensuite, ce sera à vous de jouer, ma chère Philippine Darblay, bonjour.
Bonjour.
Vous avez toujours une mine radieuse, vous, c'est incroyable. Oh, mais dites-moi, ce ne serait pas grâce aux astuces que vous allez nous présenter ce midi ?
Bien sûr, on est là pour ça, à vous donner des bons plans pour mieux se réveiller.
Génial, c'est pour ça que vous avez l'air de bonne humeur. Et enfin, on va terminer ce tour de table aujourd'hui avec vous, Cécile Coumeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes notre spécialiste tendance pour les quincailles plus. Quelle est la tendance que vous allez nous présenter aujourd'hui ?
Les crash tests, en fait, c'est quand des start-up rencontrent des seniors et ils testent leurs produits innovants. Vous allez voir qu'entre ces deux mondes, le courant passe bien.
Très drôle. Merci Cécile. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on va se lécher les babines dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Il y a comme un vent de douceur, des effluves sucrées dans ce studio. Depuis que vous nous avez rejoint, Marion Sauveur, on va commencer l'année en douceur avec une confiserie.
Oui, les guimauves sous forme de cubes, de longs rubans comme dans les fêtes foraines. Bien moelleuse et fondante en bouche, c'est une gourmandise qui avait été un petit peu oubliée et qu'on trouve de plus en plus chez nos boulangers, pâtissiers et confiseurs. Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est la guimauve ?
Pas du tout.
Non,
c'est
franchement,
bon. Franchement, je sais que c'est bon, il y a du sucre, hein, ça, il n'y a pas de doute, je mettrai ma main à couper.
Eh bien, au départ, c'est une plante qui pousse aux abords de la Méditerranée, encore aujourd'hui, et une jolie plante aux fleurs blanches et qui fait partie de la famille des mauves, d'où son nom
ça
guimauve.
Ça va, si c'est une fleur, ça ne fait pas grossir.
Bah, alors attendez la suite. Et à partir de ses racines, donc, on réalisait depuis l'Antiquité une préparation médicinale pour soigner la toux, une sorte de gomme gluante obtenue grâce à une substance contenue donc, dans les racines, qui au contact de l'eau va gonfler. On la mélangeait avec du miel et au 19e siècle, les confiseurs vont remplacer le miel par du sucre. C'est ce qui va donner les guimauves à croquer que l'on connaît. Petit à petit, la gélatine va remplacer la vraie guimauve. Et aujourd'hui, il n'y a plus de guimauve, donc plus de plantes dans la guimauve. Alors, mais la recette n'a pas changé. Je vous présente celle de Stéphanie de Frénois de la confiserie Maison Carrousel, qui est spécialisée en guimauve artisanale à l'ancienne.
Une guimauve, ça se fait à partir d'un sirop. Donc, on monte en température du sucre et de l'eau. Et ensuite, on le foisonne. Donc, on le mélange avec un gélifiant, donc de la gélatine de poisson, de la gélatine de porc. Ensuite, on utilise un batteur pour faire monter tout ça. Donc, on incorpore de l'air. Et ensuite, on le coule soit dans des moules individuels, soit sur des plaques qu'on laisse reposer 24 heures pour que ça prenne. Et ensuite, on le découpe ou on le démoule et on le met dans le sucre amylacé, donc le sucre et maïzena, pour enrober ces petits cubes ou ces petites formes de guimauve. Et ensuite, on peut déguster.
Et vous pouvez d'ailleurs déguster donc ces premières guimauves de la Maison
Julia
Carrousel.
Julia, elle a tout fini déjà.
Non, j'ai pas tout fini.
La première de la Maison Carrousel, rose, là, il n'y en a plus dans l'assiette.
Mais non, moi, elle n'était pas rose. Alors...
Non, chacune a des parfums différents, puisqu'il y a des parfums aromatisés.
C'était quoi vos parfums ? Vous avez eu le temps de goûter en avalant aussi vite ?
Ben, je sais pas, c'était pas un truc genre...
C'était noir, donc ouais. Sésame noir.
Ah ben, qu'est-ce que c'était bon.
La rose violette
c'est
est au cassis.
C'est chez moi, d'accord, c'est très bon.
La verte à la poire et la blanche au rhum.
Alors la verte chez Philippine, c'est bon ?
Ah oui, c'est délicieux.
Et vous, Cécile ?
Au rhum, oui, c'est très bien. Ah, pour le Dry January, c'est pas très bon, mais ça va aller quand même.
Et je vous invite à goûter la deuxième.
Elle est fourrée, la deuxième ?
Mais oui, puisque pour les petits Fanny Maison Carrousel propose un coffret spécial rempli
de
guimauve façon galette des rois.
La tuerie.
Une crème d'amande et à l'intérieur un feuilletage. Vous allez voir, c'est impressionnant quand on croque. Et dans ce coffret, il y a une surprise. Il y a une des guimauves qui...
Il y a une fève ?
Oui, regardez, j'ai la couronne. Donc alors, il va falloir manger tout le coffret.
J'ai pas la fève.
fèves dans la bouche, je vais continuer à manger. Mais c'est génial, mais on peut faire des guimauves à la maison.
Mais pas la fève, mais je me suis régalée.
Mais bien sûr, on peut faire des guimauves à la maison. Alors, pas forcément celle-ci, hein, mais on va commencer par réaliser un sirop de sucre en portant à ébullition du sucre avec de l'eau. L'idéal, c'est de monter jusqu'à 121 degrés si vous avez un thermomètre avec une sonde. Et à ce sirop, vous ajoutez la gélatine bien ramollie et essorée. Et ce sirop, on va l'ajouter à des blancs en neige bien mousseux, toujours en fouettant, comme si on réalisait une meringue italienne. Là, on peut aromatiser fleur d'oranger, cacao en poudre par exemple. Et puis, on étale cette pâte à guimauve dans un plat saupoudré d'un mélange de maïzena et de sucre glace. Vous avez compris que c'était ce mélange de sucre qu'il fallait ajouter autour de la guimauve. On laisse reposer et le lendemain, il ne reste plus qu'à découper ces guimauves et les enrober encore une fois de ce mélange. C'est vraiment pas si difficile
à
faire.
Oui, ça va, ça m'a l'air à notre portée.
Vous en avez déjà fait?
Non, jamais. Mais maintenant que j'ai la bonne recette et qu'on va la retrouver sur europe1.fr, eh bien, je pourrais en faire chez moi pour satisfaire tout le monde. Alors Marion, si on ne veut pas faire des guimauves maison, comme Julia, parce que je pense qu'elle me demande, mais elle n'en fera jamais.
Non, mais jamais. Par contre, je vais prendre l'adresse
de Maison Carousel. Ah,
ouais. Mais comment on fait pour les choisir, les bonnes guimauves?
Alors, si on va chez Maison Carousel, ça se passe en ligne uniquement ou dans les épiceries fines. Sinon, il faut bien regarder les ingrédients de bonnes guimauves, non pas de conservateurs. Il ne faut surtout pas qu'elles aient l'air raplapla ni sèches. Et puis, dans la bouche, elles doivent avoir une texture fondante et légère, comme celle que vous avez dégustée. Les guimauves artisanales, ça se garde quand même 3 semaines.
Mais il faudrait que ça dure 3 semaines. Ouais, à la maison, ça se dure pas la peine.
Jamais. 3 jours éventuellement. Ça se cuisine ou pas, la guimauve?
Alors, ça dépend ce que vous appelez cuisiner, Julia.
Bon, bah, moi, c'est pas grand-chose avec moi cuisiner. Bah, oui.
Vous pouvez rendre beaucoup plus gourmand un chocolat chaud à la place de la chantilly pour un chocolat viennois, par exemple.
Les marshmallows, c'est pareil, en fait. Hein.
Les marshmallows, c'est ce qu'on appelle les guimauves aux États-Unis. Vous avez les chamallows, mais qui est une marque en France. Ah, oui, et donc, la guimauve généraliste, un petit peu de partout. Aux États-Unis, donc les marshmallows, ils les utilisent comme une sorte de sandwich. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ils les font brûler parfois aussi.
Ils les font brûler, donc ils les font ramollir. Ils les mettent entre 2 biscuits avec et un carré de chocolat. Voilà.
Elle connaît Philippine, je crois. Ouais.
Et ce qui nous fait succomber en France, c'est bien sûr les oursons en guimauve. Une guimauve recouverte d'une coque en chocolat. Croquer dans ces oursons, ça nous fait retomber en enfance. Je vous laisse croquer.
On en a évidemment un très bon dans l'assiette. Mais Julia est déjà en train de croquer.
C'est l'une des références en la matière.
Je connais, c'est
presque
mon copain.
De l'ASMR comme hier, là. Croquer un peu plus fort.
Voilà.
Et voilà. La texture est extraordinaire. L'une des références, donc, Cyril Lignac.
C'est mon copain.
Il en propose donc au lait noir, au chocolat dulce, au praliné, dans de jolies boîtes en fer. Et ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que vous pouvez vous abonner pour recevoir ces oursons, soit toutes les semaines à la maison, soit tous les mois.
Cécile, vous, quand vous croquez, ça ne fait pas
de bruit. Ça fait
moins
de bruit, c'est bizarre. Ouais.
Elle a des bonnes dents, là, Julia, je crois.
Merci pour mes dents.
Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon, excusez-moi. Et donc, s'abonner, genre, on peut recevoir tous les mois.
Voilà, vous pouvez recevoir tous les mois une petite boîte comme ça.
Jolies, les boîtes, en plus.
Ouais. C'est à partir de 28 euros la boîte, donc c'est à partir de 28 euros chaque semaine, si vous êtes fan.
Bien, tout l'alcool qu'on ne boira pas pendant le janvier, ben on peut le mettre dans les oursons en chocolat.
16 oursons en chocolat à recevoir à la maison, toutes les semaines, tous les mois, comme vous le souhaitez.
Eh ben merci beaucoup Marion Sauveur pour cette présentation parfaite de la guimauve. Cette dégustation nous a ravis. On va laisser tout le monde finir d'avaler ses sucreries autour de la table et on revient dans un instant. D'abord avec Philippine Darblay, elle a déniché pour nous des sons, des rituels, vous allez l'entendre, qui sont très à la mode pour enfin se lever du bon pied. Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Et puis Cécile Coumeau sera également de la partie. Elle va nous parler des consos, car elle a assisté à un crash test d'un nouveau genre. C'est une histoire de start-up et de senior, deux mots qu'on assemble rarement, mais vous allez voir, c'est étonnant. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance se poursuit avec la crème des chroniqueuses aujourd'hui. Et à présent, je vais donner, tant que mon taux de glycémie descende un peu, la parole à Philippine Darblay. Elle va nous parler d'un moment primordial dans la journée pour se sentir bien, c'est le réveil, qui n'est pas toujours facile, mais il existe, Philippine, apparemment, un geste simple pour se lever du bon pied.
Et oui, mais alors avant ça, je vous propose un petit test là autour de la table. Est-ce que vous êtes prête à souffrir un petit peu? Je suis sadique ce matin.
Ouais, pas trop.
Non, je vous rassure, après j'aurai plein d'astuces. Mais alors je vais vous passer quelques sons et vous allez me dire, voilà, comme ça, très spontanément, ce à quoi ça vous fait penser. Alors, d'accord. Voilà, le premier audio, c'est celui-ci.
Un réveil.
Eh oui. Ah, de téléphone.
C'est
agréable.
C'est très agréable.
On l'a quand même entendu beaucoup de fois dans notre vie. Maintenant, il y en a un deuxième.
Réveil aussi.
Pareil. C'est franchement, mieux, on a envie de... On ne sait plus si on l'aime ou on la déteste, cette chanson. Et alors, la troisième, attention. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui se réveillent avec ça.
Pour être sûr d'être réveillé au moins.
Non, mais c'est anxiogène au possible. On sort d'un gène, d'un rêve horrible.
Enfin, ouais, voilà, exactement. Donc imaginez, si on dort mal, le matelas est pourri, on a l'angoisse du lendemain et en plus on a ça pour se réveiller. Honnêtement,
c'est horrible. Même pour présenter une émission, c'est pas très agréable. Nicolas Baudin, enlevez-nous ça.
En tout cas, il y a de quoi. Vraiment tuer notre journée, quoi.
Mais c'est horrible. Bon, alors, quelle sonnerie serait bonne pour nous dans ce cas si on veut éviter évidemment tout ça?
Eh bien, justement, il y a une marque qui s'appelle F-Sleep qui s'est associée avec le docteur David Greenberg pour réaliser une étude assez intéressante, vous allez voir, qui dit que selon notre personnalité, en fait, on aurait besoin de telle ou telle sonnerie. Alors, plus exactement, si vous êtes introverti ou extraverti, il vous faudrait des choses différentes. Alors, typiquement, les introvertis iraient plutôt vers quelque chose de lent, de calme, de doux. Voilà, et pour se sentir un peu plus vigilant.
C'est quoi, ça c'est mon réveil tous les matins.
C'est le même que le mien.
Je suis introvertie ou je suis quoi alors?
Moi je dirais plutôt extravertie, parce que justement les extravertis c'est quelque chose de plutôt énergique, rythmé, bien que franchement je trouve pas ça hyper agréable votre sonnerie, Julia.
Mais vous avez des choses mieux à me proposer, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est F-Sleep et le docteur David Greenberg ont produit des musiques que vous pouvez télécharger, mais il y a pas mal d'autres choses.
Mais au-delà de ma personnalité, c'est pour mes goûts musicaux que je choisis telle ou telle musique?
Bah oui, c'est vrai. Hein. L'étude, elle parle de besoins, donc objectifs, mais on a aussi des goûts qui sont subjectifs. Et ces goûts musicaux sont super, super importants dans la sonnerie. Ça, c'est quelque chose que Martin Balzan, qui est compositeur de musique de film et formé à la musicothérapie, soutient. Alors pour rappel, la musicothérapie, c'est la thérapie par la musique. Et voici ses conseils pour bien choisir son réveil.
Le choix d'une sonnerie pour un meilleur réveil, c'est avant tout une musique que l'on aime pour libérer un maximum de dopamine. Plutôt quelque chose de joyeux, d'entraînant mais pas brusque. Un son harmonieux qui donne envie de fredonner en quelque sorte. Le rythme aussi est important. Notre rythme cardiaque peut être influencé par la musique. Donc l'idée, c'est d'accompagner en quelque sorte le passage du sommeil vers le réveil avec des musiques plutôt douces. Et enfin, l'idéal serait d'opter pour un volume sonore progressif.
Voilà, hein, y a des choses qu'on comprend assez naturellement, mais c'est quand même assez technique mine de rien. Alors on a entendu la sonnerie de Julia, mais autour de la table, vous écoutez quoi vous pour réveiller par exemple Mélanie?
Moi c'est Jane, souvent, voilà.
Ça arrive. Ça m'est en forme.
Et comme je mets beaucoup de temps à me réveiller, je l'écoute jusque dans le métro. Elle est en boucle.
Ah mais c'est chouette ça.
Et ça me met de bonne humeur.
Ça donne la pêche.
Voilà. Ouais. Et vous là, les deux autres?
Alors moi j'écoute Europe 1.
Non, c'est une très bonne idée.
C'est très corpo, effectivement.
Mais oui.
Et moi, j'avoue, j'écoute la radio, journaliste, j'écoute les infos. Mais si vraiment j'ai besoin de me réveiller beaucoup, je vais écouter du courage pour me donner du courage.
Pas mal.
Ah, c'est vrai?
J'adore.
Julia, vous c'est quoi?
Non, moi, j'aime bien les trucs un peu vénères.
Ah oui?
Ouais.
Pour le réveil?
Ouais.
J'adore.
Jermaine Jackson, les pièces à
Bah dis donc, ça
vous dansez
pas
comme ça dès le matin?
Ah ouais, hein, ouais.
Dans sous la douche?
À 4h du matin?
Non, je danse pas sous la douche, mais dans le taxi qui m'amène.
Pauvre chauffeur. Bon, finalement, Philippine, comment la musique a-t-elle un impact sur nous?
Bah, c'est vrai qu'on l'a bien vu, elle nous fait frissonner, parfois elle nous donne même envie de pleurer, on a même le cœur qui peut battre plus vite, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Donc comment est-ce que ça se fait qu'on soit aussi sensible à la musique? Et bien ça, Nathalie Gunther, qui est psychologue, explique simplement que quand on écoute des musiques qu'on aime, en fait on produit ce qu'on appelle la molécule du bonheur, ou plus exactement la dopamine, un peu comme pendant le sexe ou les drogues, en fait, ça fait le même effet. Et cette molécule, elle intervient directement dans nos émotions et notre humeur.
La musique peut devenir un outil thérapeutique, soit pour prendre en charge les pathologies telles que la dépression, l'anxiété ou même le stress, ou alors les pathologies cognitives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. On sait que la musique, en tant qu'outil thérapeutique, fait remonter à la surface des souvenirs et des émotions enfouies depuis un temps assez lointain.
D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite tous à aller regarder une vidéo sur YouTube qui est hallucinante. C'est une danseuse étoile qui est atteinte d'Alzheimer et on voit bien que, enfin, je pense que la dame est très 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 âgée. Et en fait, on lui met un casque avec le lac des signes et elle commence à revivre et elle refait les moments. Je vous jure, j'ai des frissons rien que d'y penser.
Incroyable. Est-ce que vous auriez quelques derniers petits conseils pour bien choisir sa sonnerie de réveil?
Alors là, si on n'a pas assez d'idées déjà avec tout ce qui est passé, ça va permettre à chacun de s'inspirer. Mais sinon, il y a des tonnes de classements sur iTunes, Spotify, etc. Sur Android, on peut même synchroniser Spotify avec son horloge pour changer de playlist tous les jours. Mm-hmm. Et puis, si vous aimez vraiment, vraiment pas la musique, il y a des tonnes de bruits de nature. Ça, c'est très joli, c'est assez doux. Et ça réconcilie.
J'aurais peur de me rendormir, moi.
c'est ça, deuxième réveil. On peut faire un montage avec les deux, le montage.
Alors, ce que je...
Oula.
En tout cas, pensez-y, c'est un geste simple qui peut vraiment changer votre journée, voilà.
Mais c'est génial, merci beaucoup Philippine pour toutes ces découvertes. Moi, ce qui me séduit particulièrement, vous savez que je me lève très tôt tous les matins et je crois que je vais changer ma sonnerie parce qu'il y a tellement de trucs beaucoup plus sympas. Et je suis certaine que toutes ces tendances auront également intéressé les grincheux du matin qui nous écoutent. À présent, on va passer à vous, Cécile Coumeau. Je rappelle que vous êtes notre chroniqueuse spécialiste des quinca et plus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler consommation. Parce que vous avez assisté à un crash test. Vous nous avez dit que c'était un face-à-face entre des start-upers et des seniors. C'est quoi exactement ?
Alors le but du jeu est simple, c'est donc de jeunes entrepreneurs qui viennent présenter une innovation pour les seniors, donc à leurs futurs acheteurs. Mm-hmm. Alors les start-upers, ils ont l'habitude de pitcher, comme on dit, c'est-à-dire de présenter leurs nouveaux produits ou leurs nouveaux services, mais le plus souvent, ils font ça devant de potentiels financeurs. Alors là, ils font face à leurs usagers de demain, des retraités qui bénévolement viennent donner leur avis sur ces projets. C'est le réseau Silver Valley qui réunit plus de 300 acteurs de la Silver Economy, comme on dit, qui organise chaque mois ces concept crash. Et les start-upers, croyez-moi, ils se bousculent parce que les plus de 60 ans, ils représentent quand même un quart de la population. Donc, c'est un marché non négligeable.
Alors, Cécile, racontez-nous un peu comment s'est passé le crash test auquel vous avez assisté.
Alors, pour cause de Covid, évidemment, tout se passait par visio. Donc, Jean-Pierre, Christian, Nicole, Françoise et quelques autres, ils étaient chez eux. Et les start-upers, ils défilaient toutes les 20 minutes par écran interposé. Alors, il y a eu un créateur de podcasts familiaux, on en a parlé dans cette émission déjà, un concepteur d'appareils ménagers innovants et notamment d'un mini lave-vaisselle, un inventeur de lunettes connectées qui repère, vous savez, les chutes, mesure le degré d'endormissement, la température, enfin tout ça. Et après quelques minutes de présentation, les seniors, ils avaient la parole.
Et alors, ils sont tendres ou pas, les seniors?
Alors honnêtement, les échanges, ils sont bienveillants, il n'y a pas de doute. Mais avec l'âge, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop s'embarrasser, en fait.
Julien, elle est déjà assez âgée, je crois.
Oh, ça va, moi j'ai plus de filtre depuis bien longtemps.
Alors, Aurélie Seglia, qui organise ces concepts crash chez Silver Valley, elle le reconnaît volontiers, elle dit ils sont cash, ils n'arrondissent pas forcément les ongles. Et la preuve, alors, écoutez Chantal, qui après avoir écouté religieusement le concepteur de lunettes connectées, elle fait part de ses doutes.
Alors, ce que je vois justement par rapport aux lunettes que vous avez sur vous, au niveau des branches, il y a quand même une épaisseur assez importante. Par contre, quand on a des appareils auditifs, l'inconvénient, c'est que ça ne permet plus à l'oreille d'avoir l'appareil auditif et la paire de lunettes.
Voilà, et quand le créateur lui répond que ses lunettes peuvent parfaitement être portées avec des prothèses auditives, Chantal, elle se démonte pas.
Je suis très sceptique quand vous dites ça par rapport à la largeur du port d'oreille, parce que justement, moi je sais par expérience que tout ce qui est épais, ça marche pas, parce que sans ça, je vais avoir des oreilles de singe, là.
Au moins, c'est caché.
C'est clair.
Bon, alors, ceci dit, les seniors que j'ai rencontrés, ils boudaient pas non plus leur plaisir et ils n'étaient pas avares de conseils pratiques aussi. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre, par exemple, qui a eu un vrai coup de cœur pour le concept, vous savez, des podcasts familiaux. Mm-hmm. Donc, il permet d'enregistrer les souvenirs d'un grand-père ou d'une grand-mère et de les transmettre à toutes les générations.
Vous avez mis le doigt sur une mine extraordinaire et fabuleuse. Je suis stupéfait et je vous fais des compliments monstrueusement importants. Voilà ma première remarque. Merci. La deuxième remarque, est-ce que l'idée de votre entreprise, vous l'avez juridiquement protégée ? Car vous allez probablement faire l'objet d'un certain nombre d'entreprises jalouses de l'idée et ils vont essayer de vous la piquer.
On la lui fait pas, Jean-Pierre. On la lui fait pas. Alors Jean-Pierre et Chantal, ce sont des consommateurs lambda ou ils sont formés à cet exercice?
Ah non, c'est des consommateurs comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont quand même quelques années de plus. Et donc, des produits en tout genre, des services en tout genre, ben, ils en ont vu passer des dizaines et des dizaines au cours de leur vie. D'ailleurs, il y a eu un start-upper qui a soumis l'idée de révolutionner notre bon vieux grille-pain parce que selon lui, eh bien, il n'était pas adapté aux baguettes. Alors Nicole, elle ne s'est pas démontée, elle est partie dans sa cuisine et elle nous a apporté son grille-pain avec une plaque spéciale pour toaster la baguette. Perso, je n'avais jamais vu ça.
C'est génial.
Oui,
par
dessus, là.
Mais est-ce que les concepteurs tiennent compte des remarques des usagers?
Alors évidemment, c'est à eux de décider, hein, mais à la fin de la séance, alors les seniors, ils notent l'utilité, l'accessibilité, l'attrait du produit, enfin tout ça est bien clair. Et Silver Valley fait un compte-rendu de ses forces et ses faiblesses. Et parfois, à partir de là, eh bien, les concepteurs, ils amendent leur projet. Par exemple, Courseur, c'est une plateforme de mise en relation et d'organisation des courses entre voisins. Eh bien, au départ, le service, il était prévu pour les seuls aidants officiels, entre guillemets. Et là, ils ont décidé d'élargir leur cible.
Alors, on a bien compris, Cécile, l'intérêt des créateurs, mais les seniors, ils y gagnent quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a gagné, Jean-Pierre?
Rien du tout financièrement, en tout cas. Financièrement, bien sûr, puisqu'ils sont totalement bénévoles. Mais je vous propose d'écouter Nicole, Françoise et Jean-Pierre, justement. Vous allez comprendre.
Pour une fois, on nous demande notre avis, ce qui est excessivement rare.
Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le lien intergénérationnel.
Ce qui est intéressant, plutôt que de se comporter en allant dans un bistrot, jouer aux cartes, un truc comme ça, j'ai 89 ans, alors j'ai presque un siècle, j'ai une belle expérience derrière moi, et si je peux vous la communiquer, les deux ou trois informations susceptibles d'infléchir d'un degré certaines choses, je pense que mon rôle est intéressant.
Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, le site de Silver Valley, vous pouvez y aller, il suffit d'être retraité.
Merci beaucoup Cécile, Julia était déjà en train de s'inscrire.
Voilà, je suis déjà, ça y est, j'ai perdu mon avis. Job à Europe
1. C'était vraiment un très chouette reportage, encore une fois sur le terrain, vous arrivez toujours avec des innovations passionnantes pour les quinquas et plus, et donc je vous en remercie surtout pour Julia Vignali, ah oui, vous merci. Avez compris.
Ouais,
bref,
va,
merci à tous les trois, à toutes les trois, on vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous, cette émission est terminée. On se retrouve demain dès 11h, Julia, demain on va parler de quoi?
Eh ben je vous dis pas.
Merci Mélanie, dans Bienfait pour vous, on va parler d'amour, de couple demain, car les chiffres sont clairs. Presque un mariage sur deux se termine par un divorce. Eh bien, on va essayer d'en éviter certains, peut-être, qui sait, on vous donnera en tout cas les meilleurs secrets pour un couple qui dure et pour faire vraiment rimer amour avec toujours.
Oh, vous êtes une romantique.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages, si vous le souhaitez, au 3921, le répondeur de l'émission, ou sur nos réseaux sociaux. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.